Bonjour, merci. C'est pas de retour casque, ami de la technique. Voilà, merci, merci. Voilà, c'était la fanfare des intermittents. Voilà, nous sommes occupés. On avait pensé qu'on allait pouvoir faire une émission tranquillement ici, depuis l'auditorium de France 3 Alsace. Eh bien, nous sommes occupés, nous sommes cernés par les intermittents, par des intermittents. Ah, voilà, ça y est, j'ai mon retour. Des intermittents de Metz, des intermittents de Nancy, des intermittents de Mulhouse. Enfin, ça nous est arrivé à nous. Il n'y a pas que Pujadas. Il y a aussi là-bas, si j'y suis. Et je vous remercie. Alors, le porte-parole de ces intermittents, c'est Jérôme Bourdelon, que vous pouvez applaudir quand même, malgré tout. Merci. Et Jérôme Bourdelon est l'auteur d'un véritable tube que nous allons découvrir ou redécouvrir pour certains d'entre vous. Mais vous avez derrière nous toute la chorale des intermittents. Vous avez eu la fanfare, maintenant c'est la chorale des intermittents. Alors d'abord, Jérôme, vous allez nous présenter la chorale et après on fera quelques commentaires sur ce que nous allons entendre.
Alors la chorale, c'est la chorale des intermittents de Lorraine et maintenant d'Alsace. Nous avons l'Alsace et la Lorraine. Et nous avons aussi le BIM, qui est la brigade d'intervention musicale de Luciano Pagliarini. Et nous sommes donc venus occuper France Inter. Merci de nous recevoir. Voilà, donc je voulais dire que derrière un intermittent, il y a parfois un artiste. Ce qui n'est pas souvent le cas, mais pour une fois, il y a des artistes. Voilà.
Alors, on va vous faire entendre le chœur, donc, des intermittents. On va vous faire entendre un chant qui a une valeur doublement historique, mais je vous en dis pas plus, sauf qu'il faut l'écouter avec un certain recueillement, parce qu'il y est fait allusion à un personnage qui effectivement maintenant est au plus bas, est au plus mal, et je pense qu'il faut l'écouter avec un certain recueillement et pourquoi pas un brin de compassion. Voici
Raffarin, nous voilà, en soutien au Premier ministre. Merci.
Une flamme sacrée nous monte du Poitou. Seigneur, vénère ton talent, tu passes la salière et tu réponds présent.
Nous voilà, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jouons le plaisant de servir et de suivre tes pas.
Voilà, ils sont une quinzaine, une vingtaine. Ils sont comédiens, infirmières, forestiers, cheminots, profs de maths, metteurs en scène, agriculteurs bio. Ils sont venus avec leurs enfants, donc de Metz, de Nancy, de Mulhouse, pour chanter ce petit chef-d'œuvre qui a une histoire. Alors peut-être que les plus jeunes ignorent de quoi il s'agit. Il s'agissait d'un hymne au maréchal Pétain et qui a donc été revisité par Jérôme Bourdelon.
Un peu détourné, dirons-nous.
Détourné, on va dire ça.
J'ai revisité, parce que ça m'est venu d'un seul coup. Un matin, précisément le lendemain du 26 juin. Et avant, je me tenais tranquille, je faisais rien de mal. Et ça c'est venu d'un seul coup, j'ai pas pu m'empêcher d'écrire ça. Je pense que ça correspond peut-être à une impression qu'on peut avoir, mais c'est peut-être une fausse impression.
Alors c'est quand même né au moment de la coordination des intermittents, hein, fin juin dernier. Et cette petite chanson a eu une certaine histoire, puisque ça a été tout de suite sur Internet. Il y a des quantités de disques qui ont été gravés. Il y a eu 8000 téléchargements.
Il y a eu 8000 sur un site particulier. Il y avait 8000 téléchargements de cette chanson en une quinzaine de jours. Et elle a été diffusée dans beaucoup de manifestations. Je suis en contact avec Eliane Daffy, qui est ethnologue et qui fait un travail sur la manifestation. Et elle suit le parcours de cette chanson, donc elle l'a vu évoluer dans différents endroits, l'a vu à un maire.
Et on l'a entendu samedi à Paris, hein.
Oui, à Paris, partout.
Raffarin, nous voilà.
Mais déjà très tôt, dès le début juillet, c'était déjà dans les manifestations à Paris. Et puis après, c'était repris par d'autres corps de métier que les intermittents, évidemment.
Alors, faut dire que les camarades intermittents qui sont avec nous, quand même, sur leur t-shirt, on peut lire « Intermittents en voie de disparition ». On peut voir des étiquettes collées « Ayagon, l'art brut », ça rappelle un détournement d'une fameuse affiche de 68. Enfin, ça rigole et ça rigole pas, quoi. Disons que ça... Ce qu'on vient d'entendre, ça grince.
Oui, ben comme là, c'est un peu la non-réponse qu'on a face à nos questions, c'est-à-dire que devant ce qui se passe actuellement, le pouvoir ne réagit absolument pas. Il pense que ce qui s'est passé, c'est bien pour nous. Nous, on pense que non. Il n'y a pas de dialogue possible. Donc, puisqu'il n'y a pas de dialogue possible, on soutient le gouvernement, puisqu'il veut notre bien.
D'accord. Alors, il y a d'autres chansons, hein, qu'on va... On va entendre au cours de cette émission en direct. Il y a l'hymne à la noix. Il y a l'hymne à la noix. Donc ça, c'est l'hymne européen.
Oui, c'est ça. Oui,
voilà,
c'est
puisque
ça.
C'est la journée européenne. Il y a Ayagon le félon, si on a le temps. Et puis le chant des courtisans. Voilà, quelques œuvres qui vont agrémenter cette émission en direct. Alors, je le disais samedi, on a pu entendre Raffarin, nous voilà dans la manif. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une prolongation au fond du Forum social européen, puisque c'est la journée européenne, c'est tombé comme ça. France Inter est là aujourd'hui, les altermondialistes ont aussi les alters européens, et depuis quelques années se développe, on le dirait pas toujours, mais si on est un peu attentif, se développe une certaine contestation du modèle néolibéral. Ça s'entend un petit peu par-ci, par-là, même jusque sur les ondes nationales, on peut entendre une certaine contestation. Et cette contestation avance avec des formes nouvelles d'engagement, plus ou moins organisées, plus ou moins politisées, plus ou moins radicales, et qui se manifestent non seulement à travers l'Europe, mais un peu partout. Et autour de cette table, eh bien, il y a des gens qui sont pas d'accord, avec cette Europe-là, qui sont plutôt favorables ou qui militent plus ou moins radicalement pour une Europe, disons, sociale et une Europe des peuples et peut-être un jour une Europe véritablement politique. Alors je vais vous les présenter très rapidement. Julien Bosser, qui est on va le dire rapidement, un militant alternatif. Francis Kern, qui est doyen de la faculté d'économie, qui est prof d'économie et qui est à Attaque et qui nous parlera de la Tchétchénie, il est au comité Tchétchénie. Roger Siffer, que tout le monde connaît et qui sort un bouquin sur 20 ans de cabaret. On va y venir. Ensuite, il y a Roger Winterhalter qui est à côté de moi, qui est animateur, agitateur. Lui aussi va nous dire comment. Est-ce que vous pouvez me présenter votre camarade Roger?
Hans-Georg Heimann, qui est un responsable des mouvements de chômeurs en Suisse et notamment à Bâle.
D'accord, chômeur balois. Françoise Tulkens, qui est madame la juge. J'ai vu que vous étiez juge extraordinaire, c'est ça? J'ai lu quelque part que vous étiez juge extraordinaire.
Non,
c'est pas ça.
Non, ordinaire.
Ordinaire, vous êtes une juge ordinaire de la Cour européenne des droits de l'homme quand même.
C'est ça, oui.
Ensuite, Christian de Montlibert, qui est professeur de sociologie à l'université Marc Bloch, qui est membre d'association Raison d'agir. Jérôme Champion, qui est lui aussi militant alternatif. Tout ça, j'ai dit ça pour simplifier. Et puis Jacqueline Hubert-Kelles, qui est, elle, une militante syndicale et qui attirera notre attention sur un cas bien précis. Je voudrais qu'on commence avec Christian de Montlibert. Vous êtes prof de sociologie ici et vous êtes membre de l'association Raison d'agir. Raison d'agir, ça renvoie à une collection créée par Pierre Bourdieu et à une idée de Bourdieu concernant l'Europe.
Alors, je regardais tout à l'heure, les intermittents ont collé sur leurs vêtements « La culture est en danger ». La culture est en danger, c'est en effet le titre d'un article de Pierre Bourdieu, extrêmement fort, publié il y a déjà pratiquement 5 ans, qui signale effectivement que la culture était en danger il y a 5 ans. Mais on pourrait dire aussi que c'est le cas de l'enseignement supérieur aujourd'hui et que c'est le cas de bien d'autres secteurs. Et à chaque fois, on trouve Bruxelles, le néolibéralisme, qui sont associés à cela. Alors, je crois qu'en effet, cette émission doit évoquer Pierre Bourdieu, son travail, les petits bouquins qu'il a publiés dans la collection Raison d'agir, et puis le livre des écrits politiques qui a été publié dans la collection chez Agone. Il me semble que les intermittents, finalement, sont un exemple assez caractéristique. Je dirais que, d'une certaine façon, parce que l'Europe exige que le déficit structurel, le déficit économique soit réduit, qu'il faut faire la chasse à toutes les dépenses qui sont jugées excessives et que du coup on modifie complètement le système du régime des intermittents. Mais ce n'est pas seulement le système d'indemnité qui est en danger, c'est bien la culture. La culture à travers la nouvelle politique, par exemple, de restriction des activités de l'État ou les FRAC, qui jouent un rôle extrêmement important pour soutenir l'activité cette fois des peintres et des sculpteurs, qui d'une certaine façon voient leur budget réduit. Comment les peintres et les sculpteurs vont-ils vivre? Eux n'ont pas le statut des intermittents du spectacle. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont au RMI. Et les FRAC sont une occasion qui leur permettent de vendre des toiles, de vendre des sculptures. C'est effectivement la réduction de l'activité des DRAC, les directions régionales à l'action culturelle. C'est effectivement l'archéologie préventive qui est modifiée récemment et qui ne pourra plus faire son travail d'archéologue et qui donne des résultats d'ailleurs. Cette loi sur l'archéologie préventive a permis de faire des découvertes archéologiques extrêmement importantes dans les 2 ou 3 dernières années. Or, et dorénavant, les promoteurs, les mairies pourront réduire considérablement le temps de fouille, pour dire, faire des choses très simples. C'est les conservateurs de musées qui sont chargés maintenant de gérer chaque musée indépendamment des autres. Donc ça met en cause une question centrale dans les services publics, la péréquation. Les musées riches, avec beaucoup de visiteurs, encaissaient de l'argent, en quelque sorte, et pouvaient compenser les musées pauvres. Et du coup, il y avait un certain équilibre entre les musées. Faire en sorte que chaque musée, maintenant, gère de manière particulière ses comptes et doivent rétablir l'équilibre, implique, bien entendu, de supprimer la péréquation, et d'autre part, que les conservatoires soient obligatoirement engagés dans des activités, disons, mercantiles, pour aller un peu vite. C'est une partie du patrimoine qui va être concédée aux régions ou aux départements. Alors, il est évident que, on va peut-être en parler tout à l'heure avec Cifer, mais on risque fort de voir, effectivement, le patrimoine qui correspond le plus au tourisme, qui soit repris en charge par la région, et le patrimoine qui correspond le mieux à une image stéréotypée de l'identité régionale, par exemple le folklore alsacien, en quelque sorte, qui serait associé à cette image du tourisme. Donc à chaque fois, on a, effectivement, on pourrait prendre l'exemple de la santé, on pourrait prendre l'exemple de la situation des femmes, on pourrait prendre l'exemple de la politique culturelle. À chaque fois, on trouve, effectivement, dans la politique néolibérale menée à Bruxelles, une destruction, en quelque sorte, de toute une série de systèmes qui ont été mis en place par la lutte, par le mouvement social, tout au long du XXe siècle. C'est cela qui est en train d'être
fait. Mais Christian, on n'est pas à Bruxelles, on est à Strasbourg, et c'est le Parlement européen ici.
Alors, tout à fait. C'est bien pour ça. On sait en sociologie que quand on étudie un problème, il faut toujours aller voir celui qui n'est pas là. Quand on parle de Strasbourg, il faut regarder l'autre. Et l'autre, ici, c'est Bruxelles. À Strasbourg, les bâtiments...
Mais quand on ira à Bruxelles, on pourra parler de Strasbourg.
À Bruxelles, on pourrait parler de Strasbourg.
Okay, d'accord.
Tout à fait. Et parler du Parlement, justement. À Strasbourg, la superficie occupée par les bâtiments européens est relativement restreinte. À Bruxelles, la superficie occupée par les bâtiments européens est extrêmement conséquente. Il y a d'un côté le grand bâtiment du Justus Lipsius, du nom de cet universitaire flamand du XVIe siècle, je crois, où se tiennent les réunions des ministres, les réunions des chefs d'État. Car il ne faut pas oublier que l'Europe, elle est faite par les chefs d'État des États européens, qui font l'Europe néolibérale. Et de l'autre côté, sur l'autre colline, il y a les bâtiments de la Commission. Et au sein de la Commission, sont des bâtiments neufs, de verre, d'acier, rutilant, immense, etc., qui sont plus grands que Matignon, plus grands que la Chambre des députés, qui donnent bien la dimension du pouvoir de l'Europe. Et entre les deux, et tout autour, des immeubles neufs où se trouvent les consultants, les sociétés de lobbying, les sociétés de relations publiques, les grandes sociétés de relations publiques américaines ont aussi des bureaux à Bruxelles, pas à Strasbourg. Donc les sociétés de relations publiques, les lobbying, les consultants, les think tanks, les délégations des États, bien sûr, et les représentations des grandes sociétés, des grandes multinationales. Quand on prend le Thalys entre Paris et Bruxelles, on voit sans cesse des hommes politiques les plus notoires qui circulent, ils viennent pas à Strasbourg, ils vont à Bruxelles. On voit effectivement des représentants des grandes entreprises qui vont à Bruxelles, pas à Strasbourg. On voit effectivement Célière, on en parlait tout à l'heure, entouré de son équipe, qui se rend effectivement à Bruxelles.
On en parlait succinctement de la chanson.
Oui, tout à fait. Donc, on a là effectivement un lieu de pouvoir qui est là où se trouve, qui est l'exécutif en quelque sorte, qui s'est converti complètement au néolibéralisme et qui impose sa politique néolibérale. Alors, on pourrait citer, par exemple, un certain nombre de... L'Europe n'a pas de fonctionnaires. Donc, elle pratique un système qui est tout à fait intéressant. Elle fait appel à des consultants. Donc, on comprend qu'à Bruxelles, il y a un très grand nombre de cabinets de consultants qui sont tous en concurrence les uns avec les autres pour obtenir des marchés d'action européens. L'Europe est obligée de faire une espèce de politique de relations publiques en permanence. On l'a bien vu pour la monnaie unique. Les sociétés de relations publiques sont présentes à Bruxelles pour essayer d'obtenir cette manne. De la même façon, il y a là des groupes de pression considérables qui font du lobbying en permanence. Puisque les directives sont en train de se créer, il est évident qu'une entreprise a tout intérêt à faire en sorte que le texte de la directive correspondent à ses intérêts, n'entre pas en contradiction avec ses intérêts. On le voit bien avec la directive sur les produits chimiques dangereux à l'heure actuelle. Comment cette directive est en train, sous la pression des sociétés de lobbying, d'être vidée de son contenu, c'est-à-dire de la liste des produits qui peuvent entraîner des conséquences dramatiques pour la peau et la santé. Alors, il faudrait parler, par exemple, de l'ERT, l'European Round Table, qui regroupe les 40 patrons des plus grandes sociétés européennes. Il y a là Nestlé, Krupp, Unilever, Total, Ron Poulenc, etc. Ils sont tous là. Et ils élaborent des rapports qui sont pratiquement parfois repris mot à mot, paragraphe par paragraphe, par la plupart des sections de la Commission européenne. De la même façon, il faudrait parler de l'UNIS. L'UNIS, c'est l'Union des Confédérations Industrielles et Patronales Européennes. C'est donc un groupe de pression colossal. C'est toutes les grandes entreprises, tous les patronats européens qui sont fédérés dans l'UNIS et qui sont présents à Bruxelles, près de l'exécutif européen. Il faudrait parler du Transatlantic Business Dialogue, du TBD, où cette fois, c'est les 150 patrons des plus grandes entreprises mondiales, dont les entreprises états-uniennes et européennes, qui orientent cette politique néolibérale, qui font cette politique néolibérale. Et puis derrière les institutions, je termine là, je vois il y a l'OTAN.
Je vois l'heure qui tourne.
Il y a l'OTAN, hein, c'est-à-dire largement les États-Unis. Il y a l'AMCHAM, la Chambre de commerce des États-Unis. Il y a effectivement des institutions américaines qui sont présentes de manière peu visible, mais qui influent là aussi. Le risque étant pour l'Europe d'être, devenir un jour dans le Canada des États-Unis. L'Europe pourrait être l'Europe telle qu'on nous la fabrique. L'Europe néolibérale, elle pourrait être dans la même situation qu'est le Canada par rapport aux États-Unis.
Voilà. Alors, un exposé brillant du professeur Christian de Montlibert. On va parler maintenant avec tous ceux qui s'opposent à cette Europe qui vient d'être décrite à des degrés divers, les uns et les autres. Vous opposez, vous critiquez, vous contestez cette Europe-là et à laquelle nous allons rendre hommage, à laquelle le cœur des intermittents va rendre hommage. Ils sont prêts. Voilà, on donne le là de ce chef-d'œuvre qui s'intitule « L'hymne à la noix ». Intermittents de Metz, Nancy et Mulhouse. Je rappelle que les intermittents occupent cette émission. Alors, on a parlé de ceux qui s'opposent à cette Europe. Il y en a qui s'opposent depuis très longtemps. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes ici. On va commencer par Roger Winterhalter, on va le mettre tout de suite dans les seniors, d'un seul coup. Et Roger Winterhalter, ça fait un bout de temps que vous vous opposez, que vous n'êtes pas content et que vous contestez. Vous avez été maire de Lutterbach pendant 4 mandats.
Ça fait longtemps, hein.
Ça fait longtemps, oui, mais ça fait 24 ans, on l'a bien compris.
Ah oui, c'est
24
ça, c'est
ans, maire de Lutterbach. Et puis, ça s'est arrêté, vous allez nous dire pourquoi. Maintenant, vous avez créé la Maison de la Citoyenneté Mondiale. Vous avez créé une monnaie qui s'appelle les plus. Vous allez nous dire ce que c'est. Vous voyez comment, vous, par rapport à cette Europe, Roger ?
Bon, disons... Je me vois d'abord, je voudrais préciser que je suis un enfant qui est né pendant la Deuxième Guerre mondiale et un militant qui est né pendant la guerre d'Algérie à laquelle il s'est opposé. Et puis finalement, pour raconter un petit peu mon histoire, je me suis retrouvé dans mon patelin et je me suis dit, il faut essayer de faire de la OLE pour construire autre chose et pour répondre à des principes. Alors, pour ne pas renier mon camarade Dédé qui est dans la salle, de dire que je me suis d'abord basé sur les droits de l'homme en disant, il faut essayer de les appliquer. Et ceux qui les appliquent pas, par exemple Raffarin ou Sarko, ben je pense qu'ils pourraient faire quelques cours de rattrapage là-dessus. Et puis aussi se passionner pour l'humanité. Alors bon, j'ai tenté avec mes qualités et mes défauts de le faire à Luther Bach. Alors l'histoire est longue, mais je ne vais pas raconter tous nos mérites. Mais disons simplement, on a essayé pendant 4 mandats. Aujourd'hui, je me demande comment ils ont pu m'accepter aussi longtemps de faire avec les autres et pas pour les autres, en essayant des principes de démocratie active, des réunions du conseil municipal qui sont ouvertes au public, avec interruption de séance, des associations de quartier, enfin des référendums, un habitat HLM qui s'est fait avec, par exemple, avec la participation des habitants à la construction de leur logement. Au niveau de la forêt, on a chassé les chasseurs pour faire une forêt de promenade. On a essayé
quand même
de...
C'est 6 000 habitants, Luther Bach.
Pardon?
C'est 6 000 habitants, quand même.
6 000 habitants.
Oui, quand même, c'est pas...
D'avoir des projets d'énergie renouvelable. On s'est déclaré zone dénucléarisée. Et puis, maintenant, c'est passé. Mais enfin, à l'époque, on respirait beaucoup mieux.
Projet Cifer.
Il a même fait un monument aux vivants plutôt qu'un monument aux
morts. Voilà, on a fait un monument à la vie où un forgeron transforme les armes en fleurs de la paix. On a essayé aussi de vivre ces symboles à travers l'insertion par l'économique, à travers aussi. Et puis on a essayé de vivre des solidarités avec celles et ceux qui nous entourent, et les jeunes et les moins jeunes, et de les relier de solidarité d'ailleurs, en faisant par exemple un jumelage à l'époque avec une ville au Nicaragua. On a fait un partenariat pour la paix avec une ville au Kosovo, bien avant la guerre. Et aujourd'hui on est encore relié avec ces deux villes. Et puis, bon, ben là, tout ça et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Moi et puis d'autres, on était toute une équipe, on a essayé d'avoir un rôle d'animateur de la vie sociale, avec peut-être des qualités, certainement des défauts, mais avec la passion de faire avec. Puis ça s'est arrêté un jour, peut-être que les gens avaient marre, certainement, d'avoir un maire qui parlait des immigrés. On disait, un immigré a plus facilement un logement à Luther Bach qu'un Alsacien souche, alors que c'est pas vrai du tout, mais simplement, ils ont été respectés. On m'a fait passer pour le maire des Gitans, et j'en suis très fier d'être Totsikin, maire pour Lutupan. On a été soutenu, et je salue Roger qui était venu en 77 et depuis on a constitué l'orchestre Roger.
Qui donc, c'est l'autre Roger? Ah, c'est
on
vous
a
deux,
fait
c'est
tout ça, et
Roger
puis,
et Roger.
Je crois qu'à un moment donné, ça s'est arrêté parce que je pense que c'était une sanction politique de personnes qui disaient maintenant c'est trop, ils parlent trop des autres, et puis nous, les défenseurs des nains de jardin, on est plus tranquille chez nous. Et puis, ben voilà. Alors bon, j'en dirai pas plus parce que ça fait mal, mais en même temps, on est parfois, et je crois que les gens... On peut être, à force d'être raisonnable, d'avoir les pieds sur terre, il y en a qui s'enfoncent de plus en plus. Nous, moi j'ai gardé la tête dans les nuages, dans l'utopie, et on a constitué cette maison pour la citoyenneté mondiale, qui est ni plus ni moins une expérience de citoyenneté, c'est-à-dire on fait des forums citoyens sur des sujets, en passant des retraites à la démocratie active, participative.
C'est à Mulhouse, hein, la maison.
À Mulhouse, et aussi en passant par la prostitution, où des gens viennent et discutent, et après il y a des personnes références qui reprennent le débat, et puis après on reprend le débat, et puis après on a une synthèse. On est également centre régional des citoyens du monde, parce que si je suis européen, je suis aussi citoyen du monde, et je crois que c'est important de se relier à une communauté européenne. Le deuxième volet, c'est la société multiculturelle. Je crois que la camarade qui va parler tout à l'heure en donnera un exemple frappant. On a un rôle d'écrivain public, de soutien à ces personnes qui sont privées de papier, et on essaye de faire ça. On fait aussi des repas solidaires où des gens se retrouvent à une table, comme hier soir quand tu m'as téléphoné, il y avait 70 personnes qui parlaient de leurs différentes contrées. C'est aussi un moyen de se dire que les diversités, c'est un enrichissement continuel, et c'est pas un handicap. Et donc on fait aussi des cours de conversation française, enfin tout un tas de choses. On a signé des conventions pour permettre de loger des gens qui n'ont pas de logement par ailleurs. Donc c'est le deuxième volet. Le troisième volet, j'en ai que 4, donc ce sera bientôt terminé. Donc le troisième, c'est les solidarités internationales. Alors pour donner un exemple, cette semaine est consacrée à l'émancipation des femmes à travers les solidarités internationales, avec toujours un objectif. Est-ce que, à travers les solidarités internationales, les gens sur place se prennent en charge ou attendent simplement le bon blanc qui vient leur apporter leur surplus? Mais ils se prennent vraiment en charge, et je crois qu'à travers tous nos projets, ça se manifeste. Et enfin, de dire qu'à travers les projets, est-ce qu'on est prêt à donner, mais aussi à recevoir. Ça s'appelle le don et le contre-don. Enfin, je pense que le sociologue ne me contredira pas. Donc, on essaye de vivre ça avec, à travers des projets de solidarité internationale. Enfin, le dernier volet, c'est l'économie solidaire, une économie où on est pris en considération en fonction de ce qu'on est et pas de ce qu'on a. Donc, on est un petit peu centre de ressources. On s'est lié. Alors, nous, on construit une autre Europe, l'Europe des peuples, à travers les Allemands et même les Suisses. Il n'y a pas seulement des banques et du chocolat. Il y a aussi des chômeurs. Il y a aussi des gens qui sont solidaires.
Hans-Georg Heimann.
Tout à l'heure. Oui. Mieux que oui. Moi. Et je dirais, et alors un projet de monnaie solidaire, j'en viens, qui s'appelle tout simplement de dire, notre principe, c'est de dire que la monnaie, n'est pas actuellement, la monnaie n'est que spéculative. Pour donner un exemple, si Joseph avait eu à l'essence de Christ la bonne idée de placer un pfennig à 5% dans une banque sérieuse, le Crédit Lyonnais par exemple, il aurait obtenu en 1466 une boule d'or équivalent au poids de la terre. Ça veut dire que la monnaie actuellement n'est que spéculative. Or nous avons inventé une monnaie qui permet à des gens de se mettre autour d'une table, qui mettent en commun leurs services, leurs biens, leurs services qu'ils peuvent rendre, etc. Des gens qui partent du chômeur au cadre supérieur et qui mettent ça en commun. Et on a inventé une monnaie qui s'appelle les plus, ça veut dire plus de partage, plus de solidarité, moins de capitalisme, moins de spéculation. Et on échange et on provoque du lien social. Alors c'est ça et beaucoup d'autres choses que nous vivons en commun pour montrer que tous les femmes et tous les hommes sont doués et qu'il suffit peut-être de le vérifier à l'expérience.
Roger Winterhalter, on peut l'applaudir, c'est quand même une histoire pareille. Moi je voudrais maintenant, voilà un parcours de lutteur social, un parcours de militant, impeccable. Je voudrais voir me tourner vers les jeunes maintenant. Jérôme Champion, vous êtes jeune, vous êtes érémiste, vous êtes précaire, vous êtes intérimaire, et vous militez. Vous militez dans un mouvement qui s'appelle No Border, hein, qui a fait parler de lui l'été, pas celui-là, mais l'été précédent, et vous militez dans le festival permanent contre les lois racistes. Alors, vous allez nous dire en quoi ça consiste brièvement, rapidement, parce que le temps tourne terriblement. Oui, mais d'abord, votre impression sur un parcours comme celui de Roger.
Il est intéressant, mais en même temps, c'est un parcours aussi de la défaite. C'est-à-dire, notre génération, nous, 30 ans, l'idée de révolution, c'est-à-dire, on est né, on a commencé à militer avec l'idée que c'était déjà perdu. Et quand j'écoute qu'il faut moins de capitalisme, qu'il faut une meilleure monnaie, quelque part je me dis, mais on milite pour quoi? On milite juste pour enlever les choses qui sont les plus dégueulasses dans ce monde-là, pour ne pas les voir. Alors qu'aujourd'hui, la logique de l'argent, la logique des frontières, la logique des expulsions, la logique du travail, forcé ou pas, je veux dire, c'est une logique qu'on refuse. L'idée même de révolution aujourd'hui, elle me semble beaucoup plus intéressante que l'idée de citoyenneté, parce que l'idée de citoyenneté, elle se trompe au moins sur une chose, c'est qu'elle essaie de nous faire croire que l'État est neutre. Or, il n'y a eu aucun État dans notre histoire qui a été neutre. L'État, il est d'un côté, il est d'un côté de la loi de l'argent. Et je suis un petit peu en porte-à-faux sur, grosso modo, sur le FSE aussi, sur des choses comme ça, où on parle de citoyenneté par-ci, de citoyenneté par-là, en essayant de nous faire croire qu'on peut être un actif dans cette société civile. Or, moi, ce que je constate dans les rapports de travail que j'ai avec mes collègues, dans les rapports que j'ai avec mes amis dans les quartiers ou dans ma vie de tous les jours, c'est des rapports vivants où, à un moment donné, on essaye d'avoir envie de changer les choses. Pas uniquement d'être du bon camp pour essayer de dire les choses. Et cette idée de changement-là, elle a effectivement l'idée de révolution. Et donc, par rapport... au parcours de Roger, vous me demandez ça. Je veux dire, c'est un parcours que je respecte parce que c'est un parcours de combat. C'est un parcours d'avoir envie de faire du bien autour de soi.
Mais vous êtes plus jeune et plus radical.
Mais bien sûr, parce qu'on n'a pas envie de perdre. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas uniquement envie de se positionner comme ça. On n'a pas uniquement envie d'avoir une belle un bel épigraphe sur sa pierre tombale. Je veux dire, ce qui nous entoure, on a envie que ça change.
Oui, c'est vrai qu'on continue parce que je vois que le temps passe.
Tu veux parler de No Border?
Oui, en quelques mots, tu peux parler de No Border?
Ah bah oui, parce que je suis venu un peu pour ça. L'expérience du mouvement qui a eu lieu au mois de juillet et août, le réseau No Border, c'est un réseau de plusieurs organisations politiques, à la fois en Europe, mais en dehors de l'Europe, et qui a eu que pour vocation de montrer à Strasbourg, de rendre visible à Strasbourg le système d'information Schengen. C'est-à-dire c'est quoi ? C'est-à-dire que en 1988, quand l'espace Schengen a été mis en place, chaque État a eu droit à avoir son petit bunker informatique, c'est-à-dire on a affiché tous les gens illégaux qui rentraient sur le continent européen. Et le super bunker, donc le super fichier de tous les fichiers nationaux, se trouvait à Strasbourg. Et à Strasbourg, pratiquement personne ne le connaissait.
C'est le 6.
C'est le 6, système d'information Schengen, rue de la Faisanderie, au Neuhof. Donc il y a eu cette volonté de montrer et de se battre sur la liberté de circulation. Mais après aussi, puisqu'on parle sur le thème de l'Europe, moi ce que j'aimerais dire, c'est que moi je ne me reconnais pas non plus dans la volonté de vouloir une autre Europe. Pour moi, l'Europe, c'est l'Europe des cartographes. C'est l'Europe, c'est cette Europe qui veut me séparer de mes amis avec qui j'ai grandi, qui sont de culture turque, de culture marocaine, de culture algérienne. Je veux dire, pour moi, l'Europe, c'est cette frontière-là qu'on met de l'Oural à l'Atlantique, à la Méditerranée, qu'on ferme ça, c'est un rapport colonial. Et ce rapport colonial, il est vivant. Aujourd'hui, notre société, il est vivant dans les rapports avec la police, il est vivant dans les rapports avec la justice, et il est vivant aussi dans les rapports scolaires. Et il est aussi vivant, et ça c'est important, puisque c'est quand même une émission qui est, où il y a beaucoup de gens de gauche, progressistes, qui écoutent, j'aimerais le dire, c'est, il est aussi
pas que,
vivant.
Pas que.
Pas que, mais bon...
Pas que, ça s'entend.
Le sourire de la salle, c'est que...
Ah, la salle, peut-être, mais pas,
voilà,
pas les
auditeurs. Voilà, c'est pas Jean-Marc Sylvestre, la France à terre.
C'est-à-dire on s'entend
que
bien, on
j'aimerais
s'entend
quand même. Bien. J'aimerais juste dire que sur les rapports, le rapport colonial, c'est-à-dire cette vision qu'on a des gens avec qui on vit aujourd'hui, cette vision que l'Europe a toujours eu raison, que l'Europe a dicté s'il faut mettre un foulard ou pas de foulard, que l'Europe a dicté qu'est-ce que c'est que la laïcité, quel est le droit et tout ça, c'est des choses qui traversent notre vie et on remarque qu'il est aussi présent dans les mouvements dits progressistes, y compris les partis de gauche, d'extrême gauche et les altermondialistes et tout ça, et que c'est un combat qu'il faut continuer à mener et
merci
faire
Jérôme, Jérôme Champion. Moi, je vais me tourner vers Francis Kern, qui est prof d'économie, qui est au comité de Tchétchénie et qui est à Attac. C'est une autre façon de contester cette Europe libérale, néolibérale, capitaliste, comme on voudra. Francis Kern, qu'on aille tout de suite sur un sujet qui vous tient à cœur, c'est la Tchétchénie. Vous militez dans un comité Tchétchénie.
Oui, mais je voudrais juste dire que je crois qu'on peut quand même, par rapport à ce que vient de dire Jérôme, combattre l'Europe forteresse, telle que Schengen l'a construit, le fait que les gens n'ont pas le droit de circuler, mais en même temps qu'on peut vouloir une Europe différente, une Europe qui soit ouverte, qui défende des partenariats avec les pays du Euro-Méditerranée ou avec les pays ACP d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, et que de ce point de vue-là, l'Europe, elle peut aussi marquer des points et que ça reste positif. Et je voudrais là-dessus rebondir ce que disaient Christian et Roger aussi tout à l'heure, Christian de Montlibert, c'est qu'effectivement, si Bruxelles, c'est la capitale des lobbies, et que moi, je me pose la question justement dans le débat actuel, si... Oui ou non, on est à Strasbourg. Si Strasbourg va rester le lieu du Parlement européen, parce que des trois sommets des triangles européens entre la Commission, le Conseil dont vous avez parlé des États et le Parlement, lui, il est bien une représentation démocratique. Mais le malheur aujourd'hui, c'est que il n'a pas un poids suffisant, mais d'abord dans sa vie institutionnelle, parce qu'il est écartelé entre Bruxelles et Strasbourg. Et à mon avis, mais malheureusement on l'entend jamais, ce qu'il faudrait, c'est que le Parlement et les commissions de travail et que la vie parlementaire se fasse à Strasbourg et que l'exécutif, lui, reste à Bruxelles. Les choses au moins seraient claires. Bruxelles serait la capitale de l'exécutif et du lobbying, mais Strasbourg pourrait rester la capitale d'une Europe démocratique et d'une Europe des droits de l'homme, parce que justement, à Strasbourg,
nous y voilà.
Il y a aussi le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme, dont on parle aussi très peu, et que ce Conseil de l'Europe, qui a été la première tentative de construire l'Europe et une Europe large, une de ses deux recommandations lors de sa création, c'était précisément le fait de la défense des droits de l'homme et que le droit soit supranational et dépasse justement les législations nationales. Ça a été dans l'acte fondateur du Conseil de l'Europe. Et si en plus on est donc citoyen à Strasbourg, je pense qu'on a à travailler aujourd'hui, et ce qu'on a essayé de faire au comité de Tchétchénie à Strasbourg depuis l'invasion russe de la Tchétchénie en 99 par l'armée, qui a en quelques semaines réussi à bombarder Grozny et en faire un champ de ruines. Ça, c'est passé inaperçu, c'est de là-dessus qu'on a fait les pétitions à Strasbourg et qu'avec le collectif des citoyens pour Sarajevo, on a créé ce comité. Et dans ce comité de Tchétchénie, on a développé un nouveau type d'action qui était faire effectivement du lobbying en direction des institutions européennes. Bien sûr, d'abord le Conseil de l'Europe, puisque la Russie est membre du Conseil de l'Europe depuis 98, et qu'à ce titre, elle a donc à respecter ce qui a été une des conséquences dans la création du Conseil, la Convention européenne des droits de l'homme. Et une convention, c'est plus qu'une simple charte ou une déclaration. Les États qui la signent, ils ont à en respecter les clauses. Et il se passe que depuis que le Conseil de l'Europe fonctionne, on a essayé ce lobbying, on a réussi à obtenir, peut-être pas que nous, toutes les campagnes d'opinion et d'autres, la suspension du droit de vote du Conseil de la Russie pendant un an. Ils étaient fous furieux entre avril 2000 et avril 2001. Et dans les derniers mois d'action au niveau du Conseil, on a essayé d'agir pour qu'au moins le pseudo-référendum qui devait avoir lieu puis l'élection présidentielle soit condamné par le Conseil de l'Europe, ce qui a été fait au point qu'il a même demandé en avril dernier la création d'un tribunal pénal pour juger, demander, c'est pas encore fait, de juger les crimes en Tchétchénie. Mais là où je me pose aussi une question, c'est à côté du Conseil, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, qui depuis 98 est une cour unique. Il y a un certain nombre de plaintes qui ont été déposées pour les réfugiés tchétchènes auprès de cette cour, et j'ai l'impression que là, la convention, elle est complètement à côté de la plaque, dans le sens où c'est ce qui a le plus avancé aujourd'hui dans le monde en termes de convention pour le respect des droits de l'homme, mais on a l'impression que ça valable que pour des pays en temps de paix et dans lesquels existe la démocratie et la séparation des pouvoirs. Comment peut-on, pendant 18 mois, épuiser les recours internes si, au bout du compte, les gens auront le temps d'être tués avant de pouvoir avoir mené leur recours? Et c'est vrai pour les Kurdes de Turquie, comme pour les Tchétchènes en Russie.
On va parler des Kurdes. Françoise Kulkin, vous vous sentez visée, au moins concernée par ce qui vient d'être dit. Vous êtes juge à la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes professeur extraordinaire à l'Université catholique de Louvain, c'est sous les yeux, c'était dans la Gazette d'Ottawa au Canada. Peu importe, qu'est-ce que vous répondez à cette demande? De quelle cause êtes-vous saisi? Qu'est-ce que les plaintes que vous avez, que vous recevez et les affaires que vous jugez racontent de cette Europe?
Bien, d'abord, moi, je suis très contente qu'en parlant ici de l'Europe, vous parliez de cette Europe, du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme qui sert ces droits inscrits dans la Convention de 1950. Et ça, c'est vraiment important à rappeler. Aujourd'hui, cette Convention européenne des droits de l'homme qui a été écrite en 1950, et c'est une convention, comme vous l'avez bien dit, c'est un texte contraignant. Aujourd'hui, ça s'étend à la Grande Europe. Ça fait 45 pays, la maison commune de Gorbatchev, comme il disait. Eh bien, aujourd'hui, 45 pays européens sont arrimés à ces droits fondamentaux inscrits dans la Convention. Alors, évidemment, on ne va pas tous les prendre. Ce sont ces grands droits liberté, droit à la vie, interdit de la torture, droit à la liberté, droit au procès, droit au droit, droit à la vie privée, droit à la vie familiale, droit à la liberté d'expression, de pensée, de conscience, de religion, droit à la liberté de réunion, droit à la liberté d'association, interdit de la discrimination. Je dirais que c'est un ensemble de socles droit-liberté qui sont inscrits dans les textes. Et alors, c'est ça le caractère absolument unique, c'est que les droits de l'homme, comme on disait, c'est plus qu'une déclaration. Les droits de l'homme doivent avoir un sens dans la vie des individus et des collectivités. Eh bien, pour ça, il faut qu'il y ait un mécanisme de contrôle. Ce mécanisme de contrôle, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un mécanisme judiciaire. C'est un mécanisme judiciaire et il n'y a pas que la voie judiciaire pour assurer les droits fondamentaux. Vous avez évoqué l'affaire de la Tchétchénie et notamment la voie politique de protection des droits fondamentaux par une intervention au niveau du droit de vote devant l'Assemblée parlementaire. C'est la voie politique de protection des droits. Il y a aussi la voie judiciaire. Eh bien, nous sommes la voie entièrement judiciaire. Ça veut dire que des requérants, des justiciables, aujourd'hui de ces 45 pays, ça fait 800 millions d'Européens. 800 millions d'Européens peuvent venir chez nous après avoir tout tenté dans leur pays. Ça, c'est très important à rappeler. On n'est pas une super justice. On ne se met pas à la place de la justice dans les pays.
Vous avez combien d'affaires par an? Vous avez combien de dossiers?
Écoutez, dans l'état actuel des choses, on a à peu près 30 000 requêtes pendantes. 30 000 requêtes pendantes.
Quelles sont les chances de qu'un jugement intervienne devant ces 30 000 personnes qui attendent?
Je voudrais juste terminer ce que je disais tout à l'heure, qui pour moi est important, pour qu'on ne s'en méprenne pas sur le rôle de la Cour. La Cour n'est pas un super juge. Dès qu'on va chercher justice à Strasbourg, ça n'a pas de sens. On est une instance extérieure, tiers. C'est ça la garantie des droits de l'homme, qu'ils soient mis en œuvre par une instance extérieure qui en assure collectivement le respect. Alors, bon, on a effectivement un nombre important de requêtes qui concernent toutes ces dispositions que je viens d'invoquer. Mais ce qui me frappe, moi, je suis arrivée là en 98, donc j'ai une expérience qui est encore limitée, mais je vois que certaines dispositions, maintenant, sont peut-être plus utilisées que d'autres, plus mobilisées que d'autres. Maintenant, pour un requérant, venir devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas une mince affaire. D'abord, il faut épuiser les voies de recours internes. Il faut avoir tout essayé chez soi. Et tout le monde le sait que avoir accès à la justice n'est pas facile. Avoir accès à la justice internationale est encore plus difficile, évidemment. Mais ça, nous devons respecter absolument, parce que les droits de l'homme, ça commence dans les pays, ça commence sur le plan national. Ça, c'est évidemment, pour moi, un point tout à fait important et qu'il faut rappeler pour qu'on sache ce que la Cour peut faire. Lorsqu'on a tout essayé, eh bien, la Cour est un filet de sécurité. Et là, c'est une ressource à mobiliser. Maintenant, comment les requérants arrivent devant chez nous? C'est 30 000
requérants. Je voudrais qu'on prenne un cas. On a une auditrice qui nous a saisi tout à l'heure d'un cas urgent. Là, on est en train de parler, théoriquement, etc. On est bien dans cette ambiance du Forum social européen. Mais là, en quelques mots, Jacqueline, il faudrait évoquer l'affaire qui fait que vous avez voulu venir jusqu'à nous. Vous appelez Jacqueline Hubert-Kelles. Et vous avez l'affaire d'un Kurde sans papier qui est en menace d'expulsion, hein, et ce que vous dites, il était en rétention, il est ressorti, il y a toutes les chances du monde pour qu'il soit expulsé, et si ce Kurde-là, ce gars-là, est expulsé, il y a un risque de mort. S'il est renvoyé dans son pays, il craint le pire.
Il craint le pire, effectivement. Je dis, bon, comme il était demandeur d'asile politique, donc on va faire refuser en France. Donc, et s'il retourne, c'est clair qu'il va avoir la prison. Il va le cueillir à Istanbul, à l'aéroport. Donc après, on connaît bien les jugements arbitraires de Turquie. Il faut pas jouer les hypocrites, quoi. On sait comment ça se passe dans les prisons turques. On sait aussi par expérience et par donc que quand il y a des Turcs qui ont été reconduits, donc expulsés, qui ont été emprisonnés et dont on n'a jamais plus de nouvelles. Voilà. Et donc c'est pour ça que je me pose vraiment la question sur cette Europe des droits de l'homme. Pour l'instant, c'est l'Europe de la répression et l'Europe des marchés qui crée de la misère, quoi.
François Tulpin, vous avez eu des affaires comme ça à juger?
Bien entendu, on a beaucoup d'affaires de ce type-là. Mais la question, c'est de savoir comment elles arrivent devant chez nous. Et ça, c'est pas facile. Et je vois alors beaucoup d'associations, et je trouve que c'est un rôle important des associations, d'accompagner précisément les justiciables, les requérants individuels qui vivent des situations de cet ordre, pour qu'ils puissent, dans les lieux adéquats, d'abord chez eux et puis chez nous, faire valoir éventuellement des violations.
Voilà, alors il y a une pétition sur cette affaire du Kurde, de ce Kurde sans papier, qu'on mettra sur le site de l'émission. Je voudrais qu'on finisse avec Roger Siffert quand même. Hein. Roger Siffert, c'est 20 ans de cabaret ici à Mulhouse, et c'est 20 ans de contestation. Qu'est-ce que tu présentes en ce moment, Roger? Un nouveau spectacle.
Un nouveau spectacle qui s'appelle Chauffe qui peut, sur la déroute justement des élus par rapport à ce qui s'est passé cet été. Chauffe qui peut de toute la situation. Mais pour, c'est une revue satirique. C'est-à-dire, l'Alsace est un pays de satire, un pays de cabaret. On n'a historiquement pas d'autre alternative. Je veux dire, l'histoire, la tragédie est telle qu'on est obligé de faire cette catharsis par le rire. C'est un peu comme l'humour juif, justement. Donc on fait 20 000 spectateurs par an qui viennent voir comment on dégomme des statues. Les statues, qu'elles soient de gauche ou de droite, pour nous, c'est la statue qu'il faut dégommer. Il faut dégommer le pouvoir. Peu importe qui est au pouvoir, il est à dégommer. Et on dégomme tous les ans.
Et ça fait 20 ans que ça dure.
Ça fait 20 ans que ça dure, ça fait 20 ans de provocation. Mais comme disait l'autre, si tu te couches, la seule chose que tu risques, c'est de te faire niquer.
Alors c'est en français, en alsacien en même temps? Dans deux salles différentes?
On fait deux revues en même temps. Dans une revue, on joue en alsacien, de l'autre en français. Les comédiens courent de l'une à l'autre. Parce que c'est très important que les cultures cohabitent. Et pour revenir à cette idée de l'Europe, il y a quand même une Europe qui est extrêmement importante. C'est celle du voisin, celle de l'autre. Faut pas oublier que pendant très longtemps, on a fait l'amalgame entre Allemands et Nazis. Or, ce sont nos voisins à quelques kilomètres. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et la deuxième chose, il faut aussi se souvenir qu'il y a encore quelques années, moi, 25% de la population alsacienne votait pour Le Pen. Donc connaître l'autre, connaître le voisin, c'est peut-être ce qui est primordial pour nous.
Merci Roger Siffert. Merci à tous. J'avais demandé à la direction des programmes de me donner une heure de plus, mais c'était pas possible. Merci à Christian de Montlibert.
Merci à Hans-Georg Heimann. Merci à Francis Kern, Roger Siffer, je l'ai déjà dit, François Sulkins, Roger Winterhalter, Julien Bosser, Jérôme Champion, Jérôme Bourdelon et la chorale des intermittents qu'on peut applaudir. Merci à la technique, Olivier Danigo, Clément Léotard, Dominique Allard, Adrien Gaza, Patrick Beaulieu, Laurent Fracchia, Benjamin Perrault, Armand, Richard, Jérôme, Dienne, assistant Edouard Rex, le répondeur c'est Christophe Imbert, et le numéro du répondeur, vous le connaissez, c'est le 01 56 40 37 37, assistant musique Coyenne Guyenne, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.